Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de la nuit. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h30. Il est 22h, vous êtes sur Europe 1.
La France se situe à un niveau maintenant qui est inquiétant et où donc un certain nombre de mesures seront à prendre et à décider probablement dans les 8 à 10 jours qui viennent maximum.
L'avertissement du président du Conseil scientifique face au regain de l'épidémie, Jean-François Delfraissy livre ses recommandations. Isolement des malades dès les premiers symptômes, avant même les résultats du test, et compensation financière en cas de perte de revenus. Brexit, ambiance glaciale entre Londres et Bruxelles, le Royaume-Uni multiplie les provocations, l'Europe n'entend pas plier. La France se dit prête à être solidaire avec la Grèce, en clair à accueillir une partie des 12 000 migrants de l'île de Lesbos après l'incendie qui a ravagé le camp. Dans ce journal également, le témoignage du directeur de Charlie Hebdo, Rhys, blessé lors de l'attentat. Plus de 1000 emplois supprimés, indignation des salariés d'Auchan, explication de leur patron dans 20 minutes. Jean-Denis Deven est l'invité ce soir d'Emmanuel Duteil dans l'interview Echo. Et puis le Tour de France, nouvelle victoire du sprinter Caleb Ewan, Roglic toujours maillot jaune. La météo de demain, toujours estivale, mais attention, orage en perspective dans le sud-est, nous dira Anissa Haddadi à la fin de ce journal. La Bourse de Paris continue son yo-yo, elle repasse ce soir au-dessus de la barre des 5000 points, plus 1,40%. Elle est détaillée à venir avec Didier Hameau de boursier.com. Et puis, on découvrira ensemble en direct les unes de vos journaux de demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le ton est calme, mais le message inquiétant. Alors que l'épidémie connaît un net regain dans notre pays, avertissement sans détour aujourd'hui du président du Conseil scientifique. Jean-François Delfraissy estime que le gouvernement a devant lui une fenêtre d'action de seulement quelques jours pour contenir la hausse du nombre de cas.
Le gouvernement qui, après cette phase d'été, va être obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles. Mais la France se situe à un niveau maintenant qui est inquiétant et qui n'est pas celui de l'Espagne, mais qui n'est pas loin, avec peut-être un décalage d'une quinzaine de jours, qui est beaucoup plus, je dirais, sévère que celui de l'Italie et où donc un certain nombre de mesures seront à prendre et à décider probablement dans les 8 à 10 jours qui viennent maximum, compte tenu du délai ensuite du retentissement de ces mesures.
Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique qui influence fortement la politique du gouvernement depuis le début de cette crise sanitaire. L'exécutif va annoncer de nouvelles mesures à l'issue du Conseil de défense vendredi. Ève Roger, parmi les recommandations du Conseil scientifique, lesquelles ont des chances d'être retenues ?
Alors on le sait déjà, la quatorzaine va devenir la septaine, comme on dit au Conseil scientifique, 7 jours au lieu de 14, c'est-à-dire que celui qui pense être à risque va devoir s'isoler une semaine pleine. Au moindre doute, surtout ne pas attendre le résultat du test, c'est trop tard, car c'est bien 2 jours avant les premiers symptômes et 3 jours après qu'on est le plus contagieux. Alors il faudra s'isoler chez soi, à domicile et en famille. Et là où le Conseil scientifique fait preuve d'audace, c'est qu'il propose aussi des mesures d'incitation pour favoriser cet isolement, prescription d'un arrêt de travail pour les salariés et même compensation financière en cas de perte de revenus pour les indépendants, certificat médical pour les enfants, de quoi justifier leur absence à l'école, mais aussi services à domicile, comme il en existe pour les personnes handicapées, avec livraison de nourriture et visite de médecins, d'infirmières et d'assistantes sociales si besoin.
Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Le flou durait depuis la rentrée scolaire. Il est désormais levé. Les parents obligés de rester à la maison pour garder leurs enfants en cas de fermeture d'école bénéficieront du chômage partiel. C'est ce qu'annonce ce soir dans un communiqué le gouvernement qui précise les conditions. Un seul parent par foyer pourra obtenir cette indemnisation dans le cas uniquement où les deux parents sont dans la capacité de télétravailler. Les chiffres de l'épidémie continuent leur hausse. Plus de 8500 nouvelles contaminations ces dernières 24 heures. C'est 2000 de plus qu'hier. Après Paris, Strasbourg ou encore Marseille, c'est au tour de Rennes de serrer la vis. La circulation du virus devient préoccupante dans la ville bretonne et son département. L'Ille-et-Vilaine passe au rouge. Conséquence, masque obligatoire et fermeture des bars à 1h du matin.
Europe 1, le 22-22-30, Julien Pierce.
C'est un feuilleton qui semble sans fin, le Brexit. Mais cette fois, Londres et Bruxelles semblent plus que jamais au bord de la rupture. Le gouvernement britannique a publié aujourd'hui un projet de loi retouchant notamment des arrangements douaniers en Irlande du Nord, violation assumée du droit international. Isabelle Horry, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Face à cette énième provocation, la réponse des Européens est glaciale.
Oui, glacial, ambiance nerf d'acier. L'objectif des Européens, c'est de montrer que eux, ils jouent réglo, qu'ils respectent les règles en vigueur entre États. Sans surprise, aujourd'hui, le gouvernement de Boris Johnson a publié un projet de loi qui confirme ce qui a été annoncé en début de semaine. Londres assume de violer le droit international en ne respectant pas l'accord de divorce signé l'an dernier. À cela, la présidente de la Commission européenne répond donc par un tweet qu'elle est très inquiète, que cela mine la confiance et que le respect du droit est la fondation de bonnes relations futures. En parallèle, l'Union demande aussi vite que possible une réunion du comité mixte. C'est la première étape en cas de conflit, comme dans un vrai divorce. Si une des parties ne respecte pas les règles, l'autre peut porter plainte. Dans la procédure entre Européens et Britanniques, il est d'abord prévu un face-à-face. Bruxelles veut faire les choses dans les formes. Ce qui semble presque incroyable, c'est qu'en ce moment, Michel Barnier continue officiellement à négocier à Londres. A priori, il ne va pas claquer la porte. À Bruxelles, on veut éviter un geste théâtral qui permettrait aux Britanniques de faire porter le chapeau aux Européens.
Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. L'Union européenne qui se dit ce soir très inquiète de la situation à Lesbos. Le camp de migrants sur cette île grecque est parti en fumée aujourd'hui. Incendie volontaire, ce sont des demandeurs d'asile qui ont eux-mêmes allumé les feux. Jean-Sébastien Soldaini, l'Europe se retrouve donc au pied du mur avec plus de 12 000 migrants à gérer.
12 000 personnes, c'est 4 fois la capacité totale d'accueil de ce camp qui était largement surpeuplé. Et c'est ce qui faisait peur à ces migrants, car tout récemment, des cas de Covid-19 ont été décelés. Le site a été placé en confinement par les autorités. Mais évidemment, difficile d'y faire respecter les gestes barrières, promiscuité dans les tentes, manque d'hygiène. C'est l'origine de la colère de ces migrants. Ils craignaient que le virus ne se répande rapidement. Alors, ils ont allumé plusieurs incendies en fin de nuit. Fort heureusement, il n'y a que des blessés légers, précisent les autorités, qui, devant l'ampleur du sinistre, considère que Lesbos est en état d'urgence. James, un migrant congolais, affirme lui qu'une foule de demandeurs d'asile a tenté de fuir difficilement vers le port.
C'est presque tout le camp, et les gens n'ont pas l'endroit pour dormir et tout. Et du coup, ils essayaient pour quitter un peu l'endroit, le camp, parce qu'il y avait eu feu et la police refusait de leur sortie du camp et tout. Et du coup, c'était vraiment horrible et malheureux.
Jean-Sébastien, l'Europe appelle ce soir un grand élan de solidarité.
En tout cas, les paroles sont là. La France se dit prête à prendre sa part de solidarité. Et surtout, l'Allemagne demande aux États membres d'accueillir des migrants. Si je dis surtout, c'est parce que l'Allemagne assure en ce moment la présidence tournante de l'Union. Nous avons besoin de manière urgente d'une politique migratoire et d'asile commune, affirme un diplomate. Ça sonne comme une des priorités européennes de Berlin, qui a jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de sa présidence, pour mettre tout le monde d'accord.
Jean-Sébastien Soldaini, en Biélorussie, le président Alexandre Loukachenko évoque pour la première fois la possibilité d'une élection présidentielle anticipée, mais il refuse de donner une date. Le chef de l'État réaffirme qu'il ne partira pas sous la pression.
Europe 1. Le 22-22-30.
Douloureux, mais nécessaire, salutaire même, que ces témoignages au procès des attentats de 2015. On a entendu hier les rescapés sortis indemnes physiquement des locaux de Charlie Hebdo. Aujourd'hui, c'était au tour de ceux qui ont été blessés de témoigner, notamment Rhys, l'actuel directeur de l'hebdomadaire. Chloé Triomphe.
Oui, c'est un homme à la voix posée mais empreinte d'une profonde tristesse qui s'exprime à la barre. Un homme dont la vie se résume aujourd'hui à celui d'un assigné à résidence, comme il dit, en permanence sous protection policière, qui parfois, dit-il encore, s'autorise à marcher dans la rue avec sa femme et qui résume « oui, j'ai le droit, mais est-ce que c'est bien prudent ?» Sur cette matinée du 7 janvier 2015, Rhys se montre pudique sur les détails du carnage. Il préfère évoquer le silence après les tirs. Ce silence, c'était celui de ceux qui étaient morts. Il ne fallait pas le troubler. À plusieurs reprises, ses mains se crispent pendant sa déposition. Ses mâchoires peinent à réprimer des sanglots silencieux sous le masque. Mais à chaque fois, Rhys reprend la parole avec le même calme. Il s'en prend aussi à ceux qui n'ont pas soutenu Charlie. Cette partie de la gauche, dit-il, qui a vu avec opportunisme l'islam politique comme un outil, un nouveau système alternatif à la social-démocratie qu'elle déteste. Et il interroge les consciences. La liberté, ce n'est pas gagné. On a oublié un peu vite ce qu'ont vécu les générations précédentes. Aujourd'hui, dit-il encore, je ne me sens pas coupable d'être vivant. Pour moi, en parlant de ses amis de Charlie, ils sont toujours là.
Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. Arrestation aujourd'hui en Norvège d'un homme soupçonné d'être l'un des 4 auteurs de l'attentat de la rue des Rosiers en 1982. Attentat qui avait fait 6 morts et 22 blessés dans le quartier juif historique de Paris. La France demande son extradition depuis plusieurs années, ce que les autorités norvégiennes ont toujours refusé. Elles se disent désormais prêtes à réexaminer la demande. 9 ans après l'affaire du Sofitel de New York, Nafissatou Diallo rompt le silence pour la première fois et en exclusivité dans Paris Match. L'affaire DSK a gâché ma vie. Je ne me remettrai jamais de la façon dont les procureurs m'ont traité, témoigne l'ancienne femme de chambre dans Paris Match. Donc, Ils ont subvenu aux besoins des Français pendant le confinement. Ils sont désormais sur la sellette. Les salariés d'Auchan ont appris aujourd'hui que plus de 1000 emplois allaient être supprimés. Le groupe de distribution souhaite entièrement restructurer ses services après-vente. Guy Laplatine, délégué CFDT, ne s'attendait pas à un tel plan.
Je vous avoue que je suis assez choqué. Je m'attendais à quelques centaines de personnes, allez, peut-être 200, 300, mais là, 1078, c'est un peu choquant parce que l'entreprise va mieux. Ah, il y a eu un effet d'aubaine avec le Covid, tant mieux d'ailleurs, puisqu'on a vendu plus de produits rentables, on a fait des plus gros caddies, donc on n'a pas forcément récupéré beaucoup de clients, mais on va quand même moins mal que les années précédentes. Il y a des aides de l'État qui vont tomber dans le cas du Covid. Apprendre que les héros du Covid, puisque de fait c'est comme ça qu'on nous a traités, hein, c'était vrai d'ailleurs, sont maintenant mis sur la sellette et vont pour certains perdre leur emploi, c'est particulièrement choquant. Et puis on a une vraie exigence à la CFDT, c'est que le reclassement se fasse dans le groupe Mulier, puisqu'il y a bien un groupe Mulier qui existe.
Un délégué CFDT Auchan au micro européen de Lionel Gougelot. Dans quelques minutes, les explications du directeur général d'Auchan France, Jean-Denis Deven, est l'invité ce soir de l'interview écho d'Emmanuel Dutheil. Le mariage du siècle dans le luxe semble compromis. LVMH s'estime ne plus être en mesure de racheter en l'état Tiffany, opération à 16,2 milliards de dollars. Le groupe français affirme avoir reçu une lettre du ministre des Affaires étrangères lui demandant de différer l'acquisition du joaillier américain. Réaction à la menace américaine de taxer les produits français aux États-Unis. Fermeture anticipée en vue pour la centrale à charbon de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, prévue en 2022. L'arrêt de la production du site pourrait intervenir dès la fin de l'année. Et selon le journal Les Échos. Le plaisir culinaire et sexuel est tout simplement divin. Voilà ce que déclare le souverain pontife dans un livre d'entretien sorti aujourd'hui en Italie. Le pape François condamne par ailleurs la moralité bigote, refusant toute notion de plaisir, vision qui a fait d'énormes dommages et constitue une mauvaise interprétation du message chrétien. On termine avec le Tour de France. 11e étape aujourd'hui entre Châtelaillon-Plage et Poitiers. Et c'est une nouvelle fois le sprinter australien Caleb Ewan qui l'a emporté. Axel May.
Une nouvelle victoire pour l'Australien et un déclassement pour Peter Sagan. C'est ce qu'on retiendra de cette arrivée à Poitiers. Au terme d'une étape assez soporifique, écrasée par une chaleur digne du mois de juillet, Caleb Ewan s'est imposé d'un boyau dans un sprint massif. La fusée de poche, comme il est surnommé, remporte sa deuxième étape après Sisteron en début de tour. Peter Sagan, initialement deuxième, a été déclassé dans l'emballage final alors qu'il était en train de se faire tasser le long des barrières de sécurité. Le Slovaque a joué les épaules pour se frayer un chemin, heurtant Wout Van Aert, le Belge, star dans son pays, a adressé à Sagan en guise de réponse un majeur levé qui pourrait lui valoir une amende. Bref, Sagan déclassé, certains diront que c'est sévère, d'autres que c'est le règlement. Le podium de l'étape est complété par l'Irlandais Sam Bennett qui conforte au passage son maillot vert aux dépens de Sagan et par la troisième place de Wout Van Aert. C'était l'une des dernières, si ce n'est la dernière arrivée pour sprinter. Avant les Champs-Élysées. Poitiers, Axel May, Europe 1.
On passe à la météo de demain.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
Anissa Dadi, demain sera orageux dans le sud-est.
Eh oui Julien, c'est encore très agité effectivement dans le sud. Demain sur la Côte d'Azur et la Corse particulièrement, où le temps est orageux demain toute la journée, du matin jusqu'au soir, avec des averses et de forts cumuls de pluie attendus. Toujours dans le sud, en Occitanie, Provence et jusque sur les Alpes, eh bien là le ciel est très couvert avec encore dans la journée des averses. Ailleurs, en Bretagne, en région parisienne, en Bourgogne, en Alsace, le ciel est couvert demain matin, mais pas d'inquiétude. Les nuages vont se lever et vous allez pouvoir voir le soleil demain après-midi partout ailleurs. C'est une très belle journée qui s'annonce encore un temps estival avec un soleil très généreux. Les températures, en début de journée, elles sont plus douces avec 11 à 20 degrés, 11 à Guéret, 16 à Paris et 20 pour Ajaccio. Et puis dans l'après-midi, nous aurons 22 à Lille, 24 à Lorient, 26 degrés pour Paris et Biarritz, 28 à Bastia, Grenoble et Montpellier, 30 degrés à Toulouse, Bordeaux et Lyon et jusqu'à 31 degrés à Cahors.
Merci beaucoup Anissa Haddadi. Europe 1. Restez avec nous dans un instant, toutes les infos de la bourse Top à Wall Street avec Didier Hamou de boursier.com, suivi de l'interview écho. Emmanuel Dutheil reçoit ce soir Jean-Denis Deven, directeur général d'Auchan France, distributeur qui a annoncé aujourd'hui la suppression de plus de 1000 emplois. A tout de suite sur Europe 1.
Europe Soir, le 22-22-30, Julien Pierce.
22h16 sur Europe 1, l'heure de Top à Wall Street. Toutes les infos de la bourse avec vous, Didier Hamot de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Julien.
Wall Street entame un rebond après son récent mouvement de correction.
Après la purge, oui, place au rebond technique pour l'instant. Un rebond fragile, en particulier sur les valeurs de technologie. Le Dow Jones reprend 1,6%, 27 940 points. Le Nasdaq, surtout donc l'indice des valeurs de technologie, regagne 2,7%, 11 142 points. Ça avait beaucoup baissé hier sur Tesla, ça rebondit de 11%, un marché très nerveux, Tesla à 366$, même chose pour Apple qui rebondit de 4%, 117,32$. Il y a des hausses assez nettes sur Microsoft, plus 4,3%, sur Amazon, plus 3,7%, sur Facebook c'est moins spectaculaire, plus 1%. En revanche, le joaillier Tiffany a perdu 6% à la clôture, alors que le groupe français de luxe LVMH a renoncé à son rachat dans le contexte actuel. Et puis le pétrole se reprend un peu au-dessus des $40. Il avait beaucoup baissé de plus de 5% hier. Le Brent repasse la barre des $40 à $40,80 ce soir. L'euro revient aussi sur la barre des 1,18 face au billet vert.
La Bourse de Paris en a aussi profité pour repasser au-dessus des 5000 points sur le CAC 40. Le yo-yo continue.
Oui, on a un mouvement de balancier. Effectivement, la Bourse de Paris a regagné 1,4%, 5042 points. Toujours à la recherche d'une tendance de fond. De quoi donc repasser quand même au-dessus des 5000 points. La réunion de la Banque Centrale Européenne est attendue de pied ferme demain jeudi, avec l'espoir d'un nouveau geste monétaire de la Banque Centrale au moment où la crise sanitaire inquiète de nouveau en Europe. On a certaines grandes valeurs qui en profitent, qui remontent. ST Micro plus 7%, Orange plus 5%, EDF qui avait beaucoup baissé hier reprend 5%, Lafarge aussi plus 3%, des rebonds sur Sanofi, Schneider, AXA en hausse de 3%. Et puis Air Liquide et Danone remontent de 2%.
Exception du jour, le groupe Beneteau a chuté après l'annonce de son plan de restructuration.
Oui, c'est très lourd, moins 12% Beneteau. Le groupe de nautisme perd 12% à 6 euros seulement ce soir. Le groupe, rattrapé par la crise, a présenté un plan mondial en vue de réduire ses capacités de production et ses coûts. 5 sites sur 24 sont concernés par l'opération, soit une réduction d'effectifs allant de 710 à 1390 personnes. Sur un effectif total de 8361 salariés. C'est très lourd et donc le titre rechute ce soir de 12%. Beneteau à 6 euros seulement. Sur les autres places financières, ça remonte, donc ça rebondit un petit peu partout. Francfort plus 2,2%, Milan plus 2%. On a aussi Bruxelles, plus 1,8%, Madrid, plus 0,9%, et donc le CAC 40 en hausse d'1,4%, 5042 points.
Merci beaucoup Didier Hamot de Boursier.com et à demain.
À demain.
22h19 sur Europe 1, on passe à l'interview Echo. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Jean-Denis Devenne, directeur général d'Auchan France.
Et on est tout de suite en ligne avec Jean-Denis Devenne, c'est le directeur général d'Auchan France. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Si on a eu envie d'être en ligne avec vous, c'est parce que Auchan a annoncé ce matin la suppression de près de 1500 postes dans les fonctions opérationnelles. On va y revenir dans un instant, mais toute première question. Comment on peut annoncer un tel plan quelques semaines comme ça après le confinement quand on n'a pas arrêté de dire que toutes vos équipes étaient en première ou en deuxième ligne dans la lutte contre le Covid?
Ce plan était engagé bien avant le Covid et les mesures qu'il contient, effectivement, n'ont été que ralenties finalement. Ce plan est en rien lié aux événements récents.
C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est qu'il aurait eu lieu avant, s'il n'y avait pas eu la parenthèse, pardonnez-moi peut-être de le dire ainsi, du Covid.
Absolument, puisque dès le début du mois de janvier, donc, nous avions annoncé la première étape de ce plan de transformation, qui devait donc être suivi d'une seconde, qui était prévue effectivement au cours du deuxième trimestre 2020. Et puis les circonstances en ont décidé autrement et nous avons donc reporté cette deuxième étape à maintenant, donc plutôt sur le dernier quadrimestre.
Mais le fait que tous les distributeurs aient profité d'une certaine manière du Covid, parce qu'il y a eu plus de monde à faire ses courses, des gens qui ont eu des paniers d'achat largement supérieurs à ce qui est le cas d'habitude, est-ce que ça vous a fait réduire un petit peu le plan ou non? Parce que comme on va le voir dans un instant, c'est l'évolution du mode de consommation qui vous pousse à faire cela.
Alors ce qu'il faut avoir bien en tête concernant les effets du Covid, c'est que ces effets du Covid n'ont pas été aussi favorables qu'on le pense au modèle hypermarché.
C'est un modèle très important chez Auchan.
75% de notre chiffre d'affaires chez Auchan France est encore réalisé par le modèle hypermarché. Donc, contrairement, à ce que d'aucuns peuvent penser, le Covid n'a pas eu d'effet positif pour Auchan, surtout lorsque l'on voit l'ensemble des charges qui ont pesé sur nous lorsqu'il s'est agi de mettre en œuvre tous les EPI pour nos collaborateurs.
Il n'a pas eu d'effet positif de ce que j'entends, malgré tout, quand on regarde les résultats du groupe Auchan qui ont été publiés il y a de ça quelques jours, ça va quand même vachement moins mal chez vous.
Eh bien, tant mieux, d'abord, mais ces résultats qui effectivement se redressent, hein, ont commencé à se redresser dès le second semestre 2019, et poursuivre, sur cette trajectoire engagée dès le début, dès le milieu de l'année 2019, et sont le fruit des premières, mises en œuvre du plan que l'on appelle Renaissance en interne et qui vise à améliorer très significativement notre excellence opérationnelle.
Alors, si on regarde dans le détail ce plan de suppression de près de 1500 postes, je disais que c'est lié aux fonctions opérationnelles, c'est-à-dire par exemple les services après-vente, la chaîne de logistique et puis tout ce qui peut être l'administratif dans les hypermarchés. Si on commence par les services après-vente, pour être très honnête, j'ai découvert que vous en aviez encore aujourd'hui. Ce n'est plus utile pour une marque comme vous d'avoir des services après-vente pour récupérer et pour réparer les produits détériorés ?
Là encore, il faut tenir compte des évolutions du marché et du marché de l'électronique grand public en particulier, et qui a vu des produits de plus en plus fiables et qui fait qu'au final, sur ces 10 dernières années, le marché de la réparation a effectivement reculé de 45%. D'un côté, le marché a reculé de 45% et les pratiques se sont grandement digitalisées, en particulier dans l'accueil du client, en rendant ce client de plus en plus autonome, en développant ce qu'on appelle les diagnostics à distance, un peu comme le diagnostic médical. Et nous, Auchan, aujourd'hui, on va franchir ce pas-là. Et donc, effectivement, les dispositifs dont nous disposions depuis plusieurs années maintenant vont se trouver percutés par cette évolution technologique.
Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que d'autres métiers qui existent encore aujourd'hui chez Auchan vont être amenés à disparaître d'après vous ?
C'est précisément l'objet de ce plan. Alors, dire que des métiers disparaîtront, je ne serais pas aussi radical que ça. En revanche, le contenu de certains métiers est en train d'être percuté évidemment par les nouvelles technologies. Les modèles d'organisation, eux aussi, sont en train d'être revisités. Et c'est tout l'objet de ce plan de transformation, d'adapter nos modèles opérationnels à ces nouveaux contextes, technologiques.
On va prendre un exemple, puisque certes, il y a des suppressions de postes, mais vous vous engagez par ailleurs à créer des emplois dans d'autres divisions, et notamment dans ce qu'on appelle le drive piéton. C'est-à-dire qu'on va chercher nos courses à pied dans des petits centres logistiques, dans des grands centres urbains. Leclerc fait également comme vous. Vous voulez accélérer là-dessus ?
Exactement, c'est précisément l'objet de ce plan. Avec ce plan qui vise à s'adapter aux consommateurs, nous voulons conquérir finalement de nouveaux clients à travers de nouveaux modèles commerciaux qui allient le digital et le physique au cœur des villes. Ces relais, ces nouveaux points de contact, qui seront effectivement des petits points de vente en centre-ville, seront effectivement pour Auchan le relais de croissance que nous souhaitons développer dans les trois prochaines années à grande vitesse.
Est-ce que votre modèle à vous est mort quand vous nous disiez tout à l'heure 75% du chiffre d'affaires vient de l'hypermarché?
Absolument pas. Plus important, c'est de donner une nouvelle vocation à l'hypermarché. C'est sûr que l'hypermarché distributeur de produits qui sont alignés sur des gondoles à n'en plus finir, c'est certainement derrière nous. Maintenant, nos hypermarchés doivent véritablement devenir des centres de vie dans lesquels on produit, les pizzas fraîches, exemple des plats cuisinés, dans lesquels on donne l'occasion aux clients de tester, d'essayer des hypermarchés dans lesquels on va pouvoir faire du picking pour pouvoir livrer les clients à domicile ou alors livrer ces petits points de vente. Et donc, c'est cette nouvelle vocation de l'hyper-plateforme qui va donner précisément, d'abord, qui va nous permettre de déployer de nouveaux formats qu'on appelle Figito, le format qui allie le digital et le physique, et qui, eux, sont plus en résonance avec les grandes attentes des consommateurs d'aujourd'hui. Et on va se servir des hyper comme base, entre guillemets, arrière de ces petits modèles qui vont nous amener à conquérir les centres-villes.
Eh bien, un grand merci Jean-Denis Devenne d'avoir été notre invité ce soir, directeur général d'Auchan France. On se retrouve nous demain, 22h20 sur Europe 1.
Merci beaucoup Emmanuel Dutheil. Interview à retrouver sur notre site europe1.fr. Restez avec nous dans un instant, on va découvrir ensemble les unes de la presse de demain. A tout de suite. Et voici donc ce que vous pourrez lire à la une de vos journaux demain matin. Vaccins, les laboratoires sous pression, titre Les Échos. Le quotidien économique revient notamment sur l'arrêt soudain de l'essai clinique mené par l'université d'Oxford et le laboratoire AstraZeneca. Leur vaccin expérimental figurait parmi les plus avancés au monde, mais son test a été subitement arrêté après l'apparition d'une maladie potentiellement inexpliquée chez un volontaire. Il pourrait s'agir d'un effet indésirable grave. De vaccins, il en est aussi question dans l'édito de La Croix. Jérôme Chapuis revient sur cette prise de parole commune de 9 grands laboratoires pharmaceutiques. Il rappelle leur volonté de respecter de hautes normes éthiques dans la mise au point d'un vaccin. Une réponse aux multiples tentatives d'instrumentalisation politique du dossier. Entre les lignes, on comprend que c'est Donald Trump qui est visé, écrit Jérôme Chapuis. En campagne pour sa réélection, le président américain ne cesse de mettre la pression sur son administration pour qu'elle accélère les procédures d'homologation. Covid-19, quelle stratégie face au rebond, interroge en une Le Figaro. Le gouvernement doit clarifier son plan, estime dans une tribune William Dabb, l'ancien directeur général de la Santé. Tester, tracer, isoler, le triptyque de la lutte contre le Covid reste d'actualité, mais les autorités peinent à le mettre en œuvre, juge le journal qui ajoute « Le salut pourrait venir de l'apparition prochainement des tests rapides ». Tests rapides qui s'invite également en une de l'opinion. Dépistage, le nouveau crash test politique, titre le quotidien libéral. Après les masques, le gouvernement veut éviter de se déjuger encore en renonçant aux tests pour tous. Voilà pourquoi l'exécutif espère que ces nouvelles techniques, les tests rapides donc, permettront de réduire rapidement les files d'attente devant les labos. Mais il y a aussi la question du coût, car aujourd'hui c'est open bar, écrit l'opinion. 1 million de tests par semaine remboursés à 100% par la Sécu, estimation 250 millions d'euros par mois, une ardoise qui pourrait être sans fin. Le coût final dépendra de la progression de l'épidémie et du comportement des gens. S'il y a de la peur, alors la facture explosera, explique-t-on au ministère de la Santé. Bonsoir Olivier Delacroix.
Bonsoir Julien, comment allez-vous ?
Je vais très bien, j'espère qu'il en est de même pour vous.
Écoutez, c'est comme d'habitude, je suis très content de me retrouver jusqu'à 1h du matin et de croiser votre chemin tout à l'heure à 23h pour le flash.
Je serai là en attendant 3921 pour vous appeler.
Exactement, à tout à l'heure.
Europe 1, 22h30, 1h, la libre antenne. Olivier Delacroix.